France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
En 2020, les listes écologistes avaient créé la surprise aux municipales en remportant une dizaine de grandes villes, comme par exemple Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Besançon ou en conservant Grenoble. Ces prises électorales ne sont pas anecdotiques, tant cela marque un changement d'échelle pour les écologistes. S'ils avaient déjà accédé à des postes de responsabilité au sein de divers gouvernements, ils n'avaient jamais quasiment dirigé de grandes villes, excepté Grenoble. En ce sens, juin 2020 marque une rupture profonde et permet de tirer des conclusions sur l'exercice du pouvoir écologiste en tant que tel. Alors 2026 verra-t-elle s'approfondir l'enracinement de ces mairies écologistes dans la vie politique locale? Verra-t-on émerger un nouvel écologisme municipal? Un invité ce soir pour nous éclairer, Simon Persico. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en sciences politiques et directeur de Sciences Po Grenoble. Vous avez signé la note intitulée « Vers un écologisme municipal » co-signé avec Florent Gougou. C'était pour la Fondation de l'écologie politique. Et à mes côtés, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Plaisir de vous retrouver comme chaque mercredi. Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1 et vous m'accompagnez pour cette interview.
Mais il n'y aurait visiblement pas de doute, la ville de Lyon passe au vert avec Grégory Doucet, encore inconnu hein, du paysage politique lyonnais il y a tout juste 6 mois.
Et on prend tout de suite la direction de Bordeaux avec les Verts qui arrivent en tête de ce scrutin, 35,9% pour la liste de Pierre Urmix.
Besançon, Poitiers, Annecy et Tours passent aux mains des Verts.
Direction Besançon dans le Doubs pour voir ses premiers résultats, les résultats de ce premier tour. Les Verts étaient effectivement favoris des sondages. Ils se retrouvent en tête de ce premier tour du scrutin.
À Strasbourg, c'est la spécialiste du droit de l'environnement, Jeanne Barzéguian, qui l'emporte.
Comment qualifier, Simon Persico, ce qui s'est passé pour les écologistes lors des élections municipales de 2020? Peut-on parler, comme beaucoup de médias, beaucoup de journalistes l'ont fait, le font encore, peut-on parler de vague verte écologiste?
Oui, je pense qu'on peut parler de vague verte écologiste. C'était vraiment inédit dans l'histoire politique française, mais même d'ailleurs au niveau européen, de voir autant de collectivités territoriales, des collectivités importantes. Hein. On parle de villes de plus de 100 000 habitants, donc on parle de beaucoup de citoyennes et de citoyens qui sont désormais gouvernés par des écologistes, ou en tout cas par un ou une maire écologiste. Et donc ouais, c'était une vague, clairement.
Julien Bisson.
Il faut se souvenir du contexte de ces municipales 2020 qui étaient organisées en deux temps, avec le premier confinement entre les deux tours. Est-ce que ce contexte de Covid a pu jouer un rôle dans les victoires de ces candidats écologistes?
Il a pu jouer avec des dynamiques un peu d'abstentionnisme différentiel, qui ne s'est pas déplacé, notamment au second tour. On sait que les personnes âgées s'étaient peu déplacées. Mais en même temps, on voyait dès le premier tour, il avait eu juste au début du Covid, avant le confinement. Et là, déjà, il y avait des percées vraiment significatives d'un point de vue électoral des écologistes. Et ça s'appuyait sur des facteurs plutôt de dynamisme de l'écologie dans le débat public, avec les marches pour le climat, par exemple. Avec aussi, à l'époque, il y avait eu l'effondrement du PS, le Parti socialiste était plus ce parti qui structurait la vie politique, en tout cas l'espace politique de gauche, et qui du coup laissait une place à d'autres acteurs.
Donc pour vous, lorsqu'on parle de ces victoires écologistes à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Besançon, il y a une unité dans cette surprise suscitée par les écologistes. Ce n'est pas simplement la somme de cadres strictement locaux, de cadres strictement communaux, c'est bien une vague et son unité qui ont brassé le pays.
Ouais, tout à fait. C'est une logique d'ordre national, ce qui n'est pas très étonnant parce que souvent, les compétitions municipales dans les grandes villes, elles sont souvent connectées au cadre national. D'ailleurs, il y a des partis qui sont en lice. Ce n'est pas le cas dans les toutes petites communes, mais là, il y a des partis. Et donc, il y a une logique nationale. D'autant plus qu'il y avait des campagnes, des enjeux, encore une fois, qui étaient partagés, avec l'exemple de Grenoble à l'époque, qui était mobilisé, qui avait servi d'outil un peu pour
communiquer. Presque de laboratoire.
De laboratoire un peu. Et donc, oui, il y a une logique nationale. Et aussi, un autre point qui est important de rappeler, c'est qu'on parle de mairies vertes. En fait, c'est des mairies qui sont dirigées par des maires ou des verts, et ça, c'est clair, mais c'est souvent, c'est tout le temps, d'ailleurs, des mairies qui sont de la gauche plurielle, en réalité, parce que les écolos, dès 2020, avaient fait des alliances, souvent dès le premier tour, mais encore plus au deuxième tour, avec des logiques de fusion, avec différentes forces politiques de gauche, le Parti Socialiste, la France Insoumise, le Parti Communiste, etc. Donc, c'est des mairies de gauche plurielle dirigées par un maire écolo.
Julien Bisson.
Pour se rappeler, est-ce que ce jeu d'alliance était le même d'un point de vue national? Parce qu'on pourra peut-être reparler en 2026, mais en 2020, est-ce qu'il y avait un jeu d'alliance qui se retrouvait dans toutes les municipalités ou est-ce que là, il y avait des spécificités locales?
Non, il y avait des spécificités locales. Un des seuls cas où les écolos étaient partis assez seuls au premier tour, c'était Lyon et la métropole de Lyon. Mais dans tous les autres, il y avait des configurations qui étaient un peu différentes, parfois avec le Parti communiste, parfois avec la France insoumise, parfois sans la France insoumise, parfois avec le PS, etc. Il y avait des configurations qui étaient différentes, qu'on retrouve un peu là aussi. Il y a des configurations, y compris pour les maires sortants, des configurations relativement différentes.
Parlons tout de même un peu de fond, Simon Persicaud, et donc de programmes, et donc de promesses et d'engagements qu'avaient promis les Verts dans leur ensemble lors des élections municipales de 2020. Qu'est-ce qui avait permis aussi d'attirer une part importante des électeurs?
Ils avaient permis, donc ça c'est le travail que vous avez cité tout à l'heure, et je vous en remercie, sur la note à la Fondation pour l'écologie politique, où on avait montré qu'ils avaient fait des promesses assez engageantes d'une certaine manière, avec beaucoup de promesses sur les résultats. Par exemple, le nombre d'arbres qui va être planté, le nombre de kilomètres de pistes cyclables qui vont être construites. Donc, ils avaient vraiment projeté une transformation urbaine, pour l'essentiel. Transformation urbaine qui revenait beaucoup, avec notamment la diminution de la place de la voiture. Et on voit que ça a été mis en place dans les nombreuses communes dont on parle. Il y avait tout un enjeu aussi de démocratisation des manières de faire, avec la mise en place d'outils de démocratie participative. C'était très fort, par exemple. Par exemple, à Poitiers, où la liste, elle avait été elle-même, c'était une liste assez citoyenne, il y avait une désignation d'élections sans candidat, et ils avaient promis un certain nombre de mesures, le budget participatif, par exemple. Il y avait aussi des promesses sur, qui correspondent, comme on pourrait dire, au cœur de métier des écologistes, sur les cantines scolaires, par exemple, le fait d'instaurer des produits d'origine bio, locale, aussi de végétaliser l'alimentation des enfants dans les cantines scolaires, qui sont de compétences municipales. Donc, vraiment, des promesses, on va dire, qui relève du cœur de métier des écologistes. Et à l'inverse, ce qu'on avait montré, c'est qu'il y avait des thèmes, par exemple la sécurité, où ils restaient assez prudents, assez généraux, ils ne faisaient pas beaucoup de promesses sur ces secteurs-là. Et d'une certaine manière, quand on a observé la réalisation de ces promesses-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils avaient été assez allants dans tous leurs secteurs. Alors, sur la sécurité, ce n'est pas très dur quand on n'a pas promis grand-chose, mais ils avaient été aussi allants, on avait uniquement observé ça à la mi-mandat. On n'a pas pu compléter cette recherche parce que ça demandait beaucoup de ressources, mais en tout cas, on avait observé une bonne réalisation des promesses. La plupart d'entre elles étaient soit réalisées, soit en cours d'engagement. Plus de 75% des promesses.
Julien Bisson.
Vous avez évoqué le travail avec la société civile, la promesse d'horizontalité. Est-ce que dans la pratique du pouvoir, cet écologisme municipal a aussi proposé quelque chose de nouveau, de radicalement différent?
Alors, toutes les communes dont on peut parler, là, la dizaine de grandes villes, ont mis en place des procédures de démocratie participative, voire même de démocratie directe, par exemple le budget participatif, des conventions citoyennes, des référendums d'initiative citoyenne. À Grenoble, ils avaient déjà l'expérience passée, qui avait un peu échoué sur certains aspects, donc ils ont mis en place ce qu'on appelle la démocratie d'interpellation. Donc vous pouvez signer des pétitions, et en fonction du nombre de pétitionnaires, la mairie s'engage à répondre de telle ou telle manière. Donc ça, c'est important et c'est commun. Après, ce qu'on a observé quand même, dans l'étude un peu qualitative, c'est qu'il reste... les institutions municipales sont ainsi faites que le maire a beaucoup de pouvoir. Et ça, il y a une forme d'inertie. Donc le maire, son cabinet, sont des acteurs qui ont beaucoup de pouvoir. Et par ailleurs, on a beau mettre des mécanismes de démocratie participative, ils trouvent toujours un peu des écueils. Ça, c'est ce que montre bien, par exemple, Guillaume Gourgue, c'est que vous avez toujours des biais de participation. C'est souvent les personnes un peu plus âgées, les plus éduquées, etc., qui participent. Donc, de fait, ça ne transforme pas de manière radicale le rapport entre les citoyens, les citoyennes et la municipalité. Mais quand même, il y a des avancées qui sont d'ailleurs prises en exemple. Là, par exemple, la métropole de Grenoble est capitale de l'innovation, et notamment de l'innovation démocratique, parce qu'en fait, il y a toute une série de politiques ou de manières d'aborder les questions en essayant d'inclure les citoyennes et les citoyens qui sont changés.
On sait, Simon Persicot, au regard des derniers résultats des élections municipales en France, que dans les villes de plus de 30 000 habitants, en moyenne, 80% des maires qui se représentent sont réélus par leurs administrés. Dans le même temps, lorsqu'on regarde aujourd'hui, pour l'année 2026, les sondages s'agissant des maires actuels écologistes, ils ne sont pas toujours en position favorable. Est-ce à dire, si je vous pose la question de manière un peu directe, que ces écologistes au pouvoir à l'échelle de la commune ont déçu?
C'est dur à dire. Franchement, là, j'ai regardé un peu les sondages. D'abord, la première chose que vraiment il faut dire, c'est que les sondages pour des élections municipales sont vraiment peu fiables. Ça, je le dis pas pour cette fois-là, je le dis pour toutes les fois précédentes où des fois on voit des écarts de 20 points, ce qui est quand même significatif, parce que c'est des petits échantillons, etc. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans ces mêmes sondages...
C'est le cas à Lyon, par exemple, on voit des écarts absolument abyssaux.
Oui, mais un écart entre les deux candidats, mais ce que je veux dire, c'est que cet écart peut même être inversé entre ce qui est annoncé. Enfin, si vous regardez Piolle 2014, par exemple, c'est totalement inversé, c'est une culbute. Donc là-dessus, je suis prudent. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les mêmes sondages indiquent une forme de, effectivement, déception dans les communes en question par rapport au bilan de ces maires écolos. Ce qui, d'une certaine manière, des fois, on respecte ses promesses et on n'est pas payé. Dans le fond, il faut regarder un peu des grands déterminants. C'est pour ça que moi, les sondages, je regarde ça avec un peu de distance. Vous l'avez rappelé, en fait, le fait que quand on est un maire sortant, on a beaucoup plus de chances d'être réélu. C'est d'autant plus fort au bout du premier mandat. Ça, c'est ce qu'on connaît de l'histoire de la Ve République. La deuxième dimension, c'est que ce sont des communes de gauche, pour l'essentiel. Ça, on peut regarder, par exemple, les élections européennes, où on voit que le niveau total de la gauche est élevé, et que, étant maire sortant et ayant souvent réussi à faire le rassemblement, bah, du coup, ils vont se retrouver au second tour, dans des configurations qui vont faire qu'ils seront en affrontement avec la droite, etc. Donc ça, c'est des espèces de choses qu'on sait qui vont se passer et qui sont plutôt en faveur des réélections, même si les sondages indiquent et qu'il y a des situations qui vont être difficiles, c'est incontestable.
On va rester sur le bilan et parler de sécurité avec Julien Bisson. Je voudrais d'abord vous faire entendre la voix de Gérald Darmanin. Il était alors ministre de l'Intérieur et il expliquait les petites frictions qu'il avait avec le maire de Lyon, Grégory Doucet.
Alors il y a à Lyon des caméras de vidéoprotection qui ont été mises en place par l'ancienne équipe et je voudrais saluer le travail de Gérard Collomb ici puisqu'il y a plus de 570 caméras de vidéoprotection à Lyon. Mais depuis 2 ans, il n'y a plus de caméras de vidéoprotection installées. Le maire a promis un audit. C'est déjà une discussion qu'on a eue il y a longtemps. Je suis venu plusieurs fois à Lyon depuis qu'il est maire de Lyon, depuis que je suis ministre de l'Intérieur et cet audit ne vient toujours pas. Je pense qu'il faut arrêter désormais de réfléchir et il faut agir. Voilà, il faut installer ces caméras comme dans toutes les villes de France. Ces caméras de vidéoprotection, elles permettent la résolution des enquêtes, elles permettent de trouver les auteurs et elles permettent aux policiers, notamment, de faire des télépatrouilles, mais aussi d'intervenir et de mieux guider, notamment la nuit, les équipages de police nationale comme de police municipale d'ailleurs. Ce qu'il n'y a pas à Lyon, c'est que la police nationale n'a pas la main sur ses caméras de vidéoprotection, parce que vous le savez, la compétence des caméras et la compétence du centre de supervision, c'est une compétence municipale.
Vous allez nous expliquer, Simon Persicot, ce qui a changé entre ce que dit Gérald Darmanin ici et le temps qui a passé depuis, mais Julien Bisson avant cela.
Oui, et cette question, en entendant l'interpellation de Gérald Darmanin, est-ce que les maires écologistes ont fini par être rattrapés par un principe de réalité, notamment sur les questions de sécurité ?
Je pense qu'on peut dire ça, dans le sens où, notamment sur cette question des caméras de vidéosurveillance à Lyon, il y a eu l'installation d'un certain nombre de caméras de vidéosurveillance dans ma mémoire au printemps 2025. On voit en fait que dans les municipalités écolos, il y a eu des changements de... peut-être changement un peu de doctrine, des changements de rapport à la police municipale, notamment donc le réarmement de la police municipale à Bordeaux. Et ça, c'est ce que explique très bien Virginie Malocher, une chercheuse en sociologie de la police, qui montre qu'il y a quand même une demande citoyenne importante sur la sécurité, une demande de la part des polices municipales elles-mêmes pour disposer d'outils, d'enquêtes, mais aussi disposer d'armes dans l'espace public. Et donc que les maires gèrent et doivent répondre à des demandes. Il ne s'agit pas d'avoir une approche. C'est aussi ce qui montre que, d'une certaine manière, il y a un pragmatisme politique, une forme de normalisation, où ils abandonnent un certain nombre des idéaux qui étaient les leurs, peut-être un peu naïfs, et qu'ils, finalement, s'adaptent. Après, il ne faut pas être dupe qu'il y a un espèce de jeu politique entre un ministre de l'Intérieur qui est d'un camp politique face à des maires maires qui sont d'un autre camp politique et chacun de ces deux acteurs a intérêt à faire monter la pression sur ces questions-là, notamment pour la question des moyens de la police nationale. Ça a été la doctrine des Verts longtemps. Dans les échanges entre Éric Piolle, maire de Grenoble, et les différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, il y a toujours eu un espèce de jeu en disant « oui, mais vous ne mettez pas les moyens de police nationale, c'est pas à moi de, je sais pas quoi, faire la chasse au narcotrafic ». Et les ministres de l'Intérieur qui répondaient « oui, mais vous ne faites aucun effort pour garantir l'exercice, un bon exercice de la police au niveau local, parce que pas de caméras de vidéosurveillance, etc. »
Est-ce qu'il n'y a pas par ailleurs, dans la mise en œuvre, dans la mise en application des propositions, des promesses écologistes, une dimension singulièrement coûteuse politiquement? Vous nous l'avez dit, hein, Simon Persicaud, les écologistes ont voulu transformer la ville, ont souhaité transformer, je ne sais pas, par exemple, le sens des routes, diminuer la part des routes qui étaient praticables pour les voitures, augmenter celles qui étaient praticables pour les vélos. Bref, transformer la ville, on le voit bien au quotidien lorsqu'on vit dans une commune de plus de 30 000 habitants, c'est coûteux, cela ne fait que des mécontents pratiquement.
Alors ça reste à démontrer encore une fois. Faut se rappeler que dans ces communes, il y a quand même la plupart des gens qui n'utilisent pas la voiture. Donc c'est sûr que ça fait les automobilistes qui utilisent au quotidien la voiture à l'intérieur des villes, eux, ils sont mécontents, ça suscite des réactions. Ce qu'on voit aussi, et ça on le voit de toute histoire d'une certaine manière, les commerçants sont mécontents qu'on fasse que les rues soient piétonnisées. Mmh. Alors même que dans le fond, les enquêtes montrent que le commerce se porte plutôt mieux une fois qu'une rue est piétonnisée. Mais cela dit, ils sont toujours mécontents. Content et c'est bien leur droit en tant que citoyen. Donc, c'est sûr que c'est des politiques de transformation qui ne sont pas neutres en fait. Elles sont pas. Il y a eu pendant très longtemps une approche selon laquelle l'écologie, de toute façon, tout le monde était d'accord pour protéger l'environnement. Et à partir du moment où on décide de mettre en place concrètement, d'être conséquent, ça suscite du dissensus. Mais on le voit sur ça, on le voit sur les zones à faible émission, on le voit sur le ZAN, le zéro artificialisation nette. Une série de quand on passe un peu à l'échelle, forcément ça suscite des réactions négatives.
Le backlash écologiste,
oui,
Julien Bisson.
Vous nous avez rappelé qu'en 2020, le discours écologiste justement était un peu à son apogée. Est-ce que dans cette campagne 2026, la place des thématiques écologistes est encore forte, ou est-ce que le backlash écologiste, c'est-à-dire un discours anti-écologique, se retrouve également dans cette campagne?
Oui, en fait, y a là aussi, on voit un changement d'ambiance par rapport à 2020. On le voit sur le fait qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, il y a un discours de plus en plus conflictuel porté par des acteurs politiques, y compris à droite, alors que jusqu'ici, il y avait un côté très consensuel. On le voit aussi dans l'opinion. L'environnement est un enjeu qui est moins important aux yeux des électeurs que ce qu'il était en 2020. Il reste important, hein, mais il a perdu un peu de la place dans la hiérarchie des priorités des électrices et des électeurs. Et on le voit aussi dans un certain nombre de propositions qui reviennent. Par exemple, le cas le plus emblématique, je trouve, c'est à Lyon, le débat sur le tunnel, quoi. Un projet qu'on peut qualifier... pour tous ceux qui s'intéressent un peu au développement urbain et au mode de transport.
C'est le projet porté par le candidat Jean-Michel Aulas.
Le candidat Jean-Michel Aulas, qui est un projet un peu daté, on pourrait dire, et en tout cas qui clairement marque un affrontement assez fort entre une conception qui est il faut diminuer la place de la voiture en général, faire la place à la végétalisation, transformer les espaces publics, et un autre qui investit beaucoup d'argent dans le béton, creuser des trous, etc.
Alors parlons stratégie politique maintenant, à travers la voix de Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes et conseillère régionale des Hauts-de-France.
Les écologistes ont une stratégie très claire, une stratégie qui soutient l'écologie, mais qui n'est pas aveugle à la période que nous traversons en ce moment, un moment où on vit, pour les mois qui viennent, hein, jusqu'à 2027, la bataille politique la plus dure et la plus importante de notre vie. Et dans ces cas-là, il faut être à la hauteur de l'histoire. Donc, premièrement, les écologistes, c'est très clair. Ils veulent, un, garder les villes de gauche et écologistes et prennent les bonnes décisions pour. Groupe local par groupe local, car chez nous, c'est les adhérents de chaque ville qui décident. Et je suis très fière de l'ensemble de leurs décisions. Deuxièmement, nous allons conquérir des villes. Les écologistes sont en mesure de gagner Lorient, Mulhouse, Fécamp. Et on va aider d'autres forces de gauche à conquérir. À Limoges, par exemple, à Saint-Étienne, à Toulouse, à Amiens.
Vous avez aussi le sourcil, Simon Persicaud, lorsque Marine Tondelier a prétendu vouloir conquérir des villes nouvelles, pour les écologistes du moins.
Ouais, j'ai un peu haussé les sourcils parce que pour conquérir une ville, enfin, en tout cas, ça veut dire qu'un maire écolo, il faut déjà être tête de liste. Enfin, avoir une liste et être à la tête de cette liste. Et elle a cité, je pense, les trois cas, les trois seuls cas où il y a une tête de liste écolo qui sont Lorient, Mulhouse et Lille. Mulhouse, ils sont à la tête d'Union de la gauche, mais en même temps, c'est une ville qui est quand même un peu à droite, donc c'est risqué. À Lille, il faut voir quand même le maire sortant, là, après Martine Aubry. Lorient, peut-être, je sais pas. Mais j'avoue que déjà, s'ils réussissaient à conserver une grande partie des villes qui gouvernent déjà, ce serait pour eux un succès. C'est pour ça que le thème de l'émission, c'était est-ce que la vague va se reproduire ? J'ai assez de mal à croire à une nouvelle vague. Déjà, si l'enracinement était confirmé, ce serait, je pense, une bonne nouvelle pour les écologistes.
Comment est-ce que vous analysez cependant le début du discours de Marine Tondelier lorsqu'elle dit d'un côté, nous sommes des écologistes convaincus, dans le même temps, nous sommes conscients que la période n'est pas très facile pour l'écologie ?
Oui, mais c'est surtout là, elle est face à une situation qui est inédite pour les écolos, c'est qu'ils ont des collectivités qui dirigent et qu'il faut conserver. Donc c'est la première fois qu'ils se trouvent dans cette situation, et ça a pour conséquence assez directe qu'ils sont moins systématiquement en tête de liste autonome. Regardez ce qui se passe à Paris. À Paris, dans l'histoire politique de Paris, il y a toujours eu une candidature, une liste écolo dans tous les arrondissements, etc. Et là, cette fois, non. Alors, peut-être que c'est le choix local. Je pense qu'il y a aussi une logique nationale de dire venez pas... Enfin, d'ailleurs, c'est ce que fait le PS dans la plupart des cas. Ils acceptent de soutenir les écolos dès le premier tour. Et en échange, les écolos se rangent derrière les candidats socialistes dès le premier tour dans un certain nombre de communes aussi. Donc c'est vrai que ça change. Mais c'est aussi lié, je pense, et là, c'est en ça qu'elle n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que la gauche s'est quand même beaucoup rétrécie politiquement, et même par rapport à 2020, hein, on l'a vu en 2024 notamment, et que le risque de la désunion est fort. Parce que quand on pèse 32, alors plus dans ces communes-là, dans ces communes, on parle plutôt d'une gauche à 40, 45, parfois 50, mais le risque de la désunion est beaucoup plus important que quand la gauche pesait 10 points de plus.
Julien Bisson.
Et de ce point de vue, justement, les écologistes sont-ils victimes des désunions à gauche, de leur stratégie de vouloir servir, eux, de trait d'union entre la gauche mélenchoniste et la gauche non mélenchoniste? Est-ce que se retrouver au milieu et ne pas choisir, finalement, ça les dessert au moment de décider de leur stratégie pour ces municipales?
Pour ces municipales, franchement, pas tellement, parce qu'en réalité, ils ont quand même réussi, alors avec l'exception de Strasbourg, par exemple. Strasbourg, on peut se dire, si Catherine Trottmann et les socialistes avaient accepté de se ranger derrière, le risque de perdre la ville serait moins élevé. Mais sinon, ils ont quand même réussi à faire cette alliance avec les socialistes, et ça leur suffit, parce qu'en fait, la menace de la France insoumise, qui est systématique, hein, encore une fois, c'est aussi qu'ils sont face à une France insoumise qui a décidé, depuis le mois de juin 2025, d'avoir une stratégie systématique d'autonomie, avec aucune logique d'alliance. Donc, du coup, l'alliance avec les socialistes leur suffit pour quoi, en fait, pour être la première force de gauche au premier tour, mais ressortant, donc en capacité de gagner au second.
Ce qui a également imprimé dans ce mandat écologiste 2020-2026, c'est peut-être la façon dont certains maires, certains élus se sont saisis de sujets dits sociétaux. Je pense par exemple au fameux sapin de Noël que certains voulaient ne pas voir dans les villes et dans les centres-villes, au Tour de France que certains ne voulaient pas voir passer également dans leur commune. Est-ce que cette dimension-là a pu marquer l'électorat, non pas d'une façon durable, mais en tout cas sur le positionnement qui était celui des écologistes au cours de ce mandat?
Ouais, je noterai d'abord que les exemples que vous citez, c'est des exemples qui datent. En fait, c'était des exemples de début de mandat.
C'est votre période d'examen, c'est pour ça que je me permets de citer ces exemples.
Ouais. Non, mais c'est vrai que 2020-2021, il y avait une partie des acteurs politiques, mais aussi des journalistes, des éditorialistes qui tapait un peu. Alors, est-ce que c'est lié aussi à des espèces de déclarations, de la communication volontairement clivante et tout? Les deux sont vrais. Mais ce que je note, c'est que ce type de moments de polémique autour de propositions écolo ont diminué avec le temps. Je pense qu'il y a un peu de changement de stratégie politique. Je permettrai juste de relever que la question du sapin de Noël n'était pas vraiment une question sociétale. Hein, c'était une question de logique d'usage des ressources, en fait. Est-ce que c'est logique de faire venir un énorme sapin qui a poussé à l'autre bout de la France en camion? C'était plus un truc très écolo, pour le coup, très un peu environnementaliste.
Elle est devenue une question sociétale dans la façon dont elle a été reprise, peut-être effectivement instrumentalisée par certains responsables politiques. Merci beaucoup, Simon Persicaud. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en sciences politiques, directeur de Sciences Po Grenoble. Je renvoie vers cette note extrêmement intéressante intitulée « Vers un écologisme municipal ?» que vous avez coécrit avec Florent Gougou pour la Fondation de l'écologie politique. Et je me tourne vers vous, Julien Bisson. Si je me rends dans une librairie, dans un kiosque pour me procurer l'hebdomadaire Le 1, qui trouverais-je cette semaine ?
Eh bien, on se demande si c'est la fin de l'Occident face au divorce accéléré entre États-Unis et Europe. Retour sur un concept plus politique que géographique.
Merci beaucoup à vous deux d'être venus ce soir au micro de France Culture.